qu'il y a des festivals de buvettes. Festival de la crêpe, peut-être festival de vide de grenier, je ne sais pas, des choses comme ça. C'est la mode. Donc, bienvenue à ces soirées de la compagnie du bal de Gascogne et la compagnie du bal qui n'attache pas, qui, etc. C'est-à-dire, c'est une compagnie transartistique de divagation, vous voyez, c'est divagation, c'est-à-dire action de errer. C'est-à-dire, nous errons, nous on fait n'importe quoi, on ne sait pas trop ce qu'on fait, vous allez en juger par vous-même. Ça fait plusieurs soirées, mais enfin, ça fait plusieurs années que nous errons, je ne sais pas si on dit nous errons ou nous errons. Intensément, on fait la liaison. Il y a des gens. Alors, parce que on ne savait pas, mais on était très en avance, puisqu'on depuis de longtemps on fait n'importe quoi ici. Voilà. Et depuis quelque temps, le n'importe quoi est aux affaires. Le n'importe qui, voilà, s'occupe de nous. Donc, vous voyez, les artistes, on anticipe toujours sans savoir qu'on anticipe. C'est ça qui fait notre charme, c'est que nous sommes des idiots. On ne le fait pas exprès, quoi. Parce que si on le faisait exprès, finalement, on serait des commerçants. Vous voyez la nuance. Voilà, il fallait choisir. Fauché, riche ou fauché. Voilà. Je ne suis pas fait exprès. Donc, tu t'en mêles pas. Ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne pas. C'est pas ton problème. Tu te crois indépendant, dégagé, détaché, décalé. Tu t'en mêles pas du tout, de rien. Tu es un coquin. Tu te crois malin. Tu as trouvé la combine. Tu ne te prends pas la tête. Tu prends la poudre d'escampette. Finalement, consentant, tu marches. Au pas, au pas. Et si ma chanson te culpabilise, c'est que tu l'es déjà. Déjà. Je ne m'adresse pas à un tas, je m'adresse à toi. Et l'autre qui dit, l'art ne culpabilise que celles et ceux qui le sont déjà. Désolé, je ne me sens pas coupable. Je ne fais que parler, moi, j'ai rien à dire. Quelle belle soirée on va passer, je pense. On va s'éclater comme des bêtes, on le sent, une espèce d'atome crochu entre nous et le cosmos. C'est magnifique, non, mais franchement. Alors, je vais vous en dire un autre, comme ça, que j'avais écrit pour Millau à l'époque où il y avait un certain Bourdieu. Il y avait une espèce de discussion à Millau, c'était je ne sais plus en quelle année, il y avait Bourdieu qui parlait, puis on m'avait demandé de d'écrire un texte. Alors, comme ça tournait autour de la malbouffe, de la mal-être, la mal-vivre, j'avais fait la mal-ouïr, puisque personne ne s'en occupait, je me suis dévoué. La mal-ouïr. Malformation auditive, conséquence d'un malentendu voulu, entretenu. Le contrôle, dressage, codage, formatage des cerveaux humains, des goûts et des colères par les oreilles. Malentendu de la maldonne, la malbouche, la mal aux autres. Petit à petit, irradié d'ombre invisiblement pur, le sujet est progressivement rendu sourd à lui-même. Il devient objet. De récepteur, il devient réceptacle. Puis, rapidement, outre, barrique, citerne, caverne, il perd sa capacité d'émetteur, cuve son trop plein de vide, sans fin, il devient contenant, vampirisé de contenu, en continu, il vampirise. Aujourd'hui, on ne tire plus les oreilles des enfants. Aujourd'hui, le géant, par les oreilles, tient les enfants, petits et grands. Je vous les compte. Ni vu, ni connu que je t'embrouille, l'écoute, le message est sage, est clair et blanc. Parle pour nous, nous débarrasse de nous, nous hypnotise, nous serine un grand coup de seringue audio-subliminable. Ne vous entendez plus, ne vous écoutez plus, ne vous découvrez plus, ne vous doutez plus, soyez certains, achetez plutôt plus, consommé avant d'être consommé. Terre en 2000. Stratégie ourdi à Louis, radioactive 24 heures sur 24, credo de la nouvelle religion unie vers celle commerciale mondiale. Théologie, rendre enfin le monde définitivement sourd à lui-même. Passif, muet, homogène, ignorant, non-pensant, non-pratiquant, croyant, consommant, consonnant, pliant. Sourd à ses particularismes locaux, à ses identités culturelles plurielles existentielles, à ses différentiels référencés, à ses mémoires en marche, à ses expériences en transparence, faire taire le monde, générer, gérer le manque et ainsi fournir, fourguer la cam. Catéchèse. Hyperproductivité ultralibérale, méga-industrielle, interplanétaire, sans merci, ni répit, sans frein, ni loi, la bourse ou la vie. Évangélisation, bombardement irradiant, tonitruant, permanent, de McDo pub, achat, musique unique, coca télé radioactive, rythmique unique, sono unique. Eucharistie, ravalement des couleuvres, coule œuvre. Effet secondaire primaire recherché, cache-misère, culpabilisation, consolation, désidentification, fascination, désujettisation, objetisation, toxiconolisation, castration des goûts et des couleuvres. Totalitarisation des dégoûts et des couleuvres. Décitoyennisation rampante, gluante, massive. Histoire d'un culte et marchand du temple, curé publiciste, homme sandwich sans état d'âme, prêtre sur gage, bien dégagé derrière les oreilles, évêque boursicoteur bourré d'oseille et à la clé, archevêques en stock option communication, cardinaux enchanteurs en tubeur enchanté, pape soupape de la lutte finance finale. Vite. Désenchantons les enchanteurs, les ont poussés, les oreilles, petites merveilles, vite, travaillons à l'avènement de la classe œuvrière, du geste musical, compagnie du bas de la Gascogne, visage village des heures à l'heure, ah, du geste médical, bah, personne n'est parfait. Épicentre du monde local de résistance à la malouir, découvrir le plaisir de découvrir. Quelle belle soirée. Nathalie Boiteau va vous dire un poème. Salut. Attends, je fais un genre de préparation psychopathétique. Vous êtes prêts? Ça va comme ça? Semé, mais sincère.
Nous venons d'un point que nous avons multiplié partout. Nous venons d'un point qui a grandi en chacun de nous et nous ne le savons plus. Nous sommes plusieurs et multiples. Nous avons oublié d'où nous venons, nous avons oublié d'où nous sommes. Nous sommes vivants depuis bien longtemps. Nous sommes les enfants des enfants des enfants. Désormais, nos grottes ont des fenêtres. Nous avons limité nos jardins aux clôtures de nos jardins. Mais en réalité, nos jardins sont grands au-delà de n'importe quel univers. Nous avons enfermé nos maisons dans des murs, mais nos maisons n'ont pas de murs. Une maison n'a jamais eu quatre murs. Devant les grottes, on disait son nom. Aujourd'hui, nous disons le nom des morts en même temps que le nom des vivants, et nous comptons l'homme depuis la nuit des temps. Pourtant, l'humanité est morte plusieurs fois. Les racines, c'est ce qui reste dans la main, même quand on les arrache. Les racines, ce n'est ni le début, ni la fin, c'est la suite. Regarder, ce n'est pas voir. Voir, c'est oublier qu'on a des yeux. Voir, c'est avec tout le corps, et toute la mémoire, et toute l'ignorance. Peindre est la version la plus impossible du regard. Le passé du monde s'écrit dans l'incertitude d'un futur, nous inventons l'espérance. Le présent n'a pas trouvé sa place, il se détache et ainsi il se pense. Sur cela, le soleil s'abstient de toute lumière. Il se retranche dans son obscurité. Et l'homme se déhanche, tourne sur la tête, jette son corps dans le vide, virage son crâne, perfore ses jambes, écarte les bras et revient dire au centre que le corps s'accumule. Alors nous passons notre tour comme nous rendons l'âme. Chaque adieu est un début. Nous nous crachons dans une intarissable lutte, mais la vérité est fatigue, sans écroulement, et ce quelque chose à poursuivre qui n'en finit pas. Un livre se renverse, il est un contrepoint. Il y a rythme et mouvement dans toutes ces choses qui nous échappent. Le refus de la chair est mensonger, l'homme est un animal. La fin de l'histoire serait de ne plus raconter, et le début serait de l'ordre de la nuit. Lorsque l'homme danse, plus de repères. Insupportable convenance, mensonge véritable, nous sommes épreuve, épuisement. Un jour nous serons violents, puis le mirage, puis la mort volontaire, tant de faits nous ficellent. Un quelque chose non dit. Le pied, les larmes de l'œil au sol, l'univers, ou du moins son nom, est une absurdité. Enfermons-nous demain. Demain, prenons n'importe quel départ. Nous sommes totalement perdus. C'est cela. Torpeur. Frontière avant la folie. Nous sommes sur la lame, dans la menace d'une chute, mais cela ne vient pas, ça ne vient pas. L'équilibre se maintient là, à la bordure. Nous diluons. Nous croisons chaque jour une fêlure. Nous sommes un nouveau fou. Chaque jour, l'accumulation. Qu'est-ce que le possible, sinon envisager impossible absent dans son essence, et la nuit, et clap, clap, c'est encore la mort qui applaudit, et clap, recommence la folie. Qu'adviendrait-il si nous cessions de désirer l'unité, l'absolu, le certain, pour enfin apprécier le lieu de la faille? Remettre l'impossible à sa place et s'en délecter, atteindre le sublime et l'égarement, les mots déchirent la parole, puis vient ce qui est tu. Un train, lancé trop vite sur les flaques de brume, et partout mort ou vif, partout des accidents, l'humanité se bouscule à la porte, un cri venu de milliers de bouches laissées tordues, râle brun écarquillé de poussière. La marge brûle. Le centre est consumé. Foyer invisible, feu éteint, cendre devenue braise. Revenu dans le creux des marges, on ne peut pas oublier. On est au bord d'un gouffre où gèlent les ombres d'hommes. Les cendres claquent. Pourtant, seule la braise ouvre l'œil. La réponse est dans les eaux ensevelies. Que dire de ce qu'il reste? Oublier son nom. Tripoter le calme admis dans cette orgie digne des grands pessimistes, comme une urgence de parler des absents. Les visages n'ont plus peur dans leur mort, les visages n'ont plus d'âge ni d'époque. C'est la civilisation qui vient, par en dessous, peindre et enfanter les morts.
Ce soir, nous avons comme invité donc Gérard Assayac de l'IRCAM, avec qui on travaille depuis plusieurs années, la compagnie du BAT, à la réalisation d'un logiciel qui, un logiciel pour improviser sous toutes ses formes, qui s'appelle Omax, et aussi Marc Chemillet. Et Marc va vous faire la présentation et un peu l'historique de tout ça. Je passe le micro.
Bonsoir. Donc moi je suis Marc Chemillier, je travaille donc sur ce projet avec mon collègue Gérard Assayag depuis 4 ans et je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de la chose et puis comment ces choses-là ont démarré. Et puis Gérard après présentera l'état actuel de ce projet et puis il y aura une performance aussi de Gérard à l'ordinateur avec Bernard Lubin. Alors, c'est un projet qui a démarré en 2004 qui consiste à réfléchir comment on peut faire improviser un ordinateur. Alors, c'est un peu paradoxal parce que l'improvisateur, il est fait pour exécuter des programmes. C'est le principe même de l'informatique de construire des programmes et de les faire exécuter par un ordinateur. Et donc, faire improviser un ordinateur, c'est quelque chose d'un peu absurde par définition même. Quoi. Alors c'est pourtant ça qu'on essaye de faire. Et donc on a développé ce logiciel avec Bernard qui était intéressé par cette expérience un peu inédite. Alors je vais vous montrer en quelques images de quoi il retourne et expliquer un petit peu le fonctionnement parce que s'il y en a parmi vous qui étaient là hier, vous avez pu assister à une performance et certains ont demandé mais il y a forcément des mathématiques derrière ça, comment ça marche, etc. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu de quelles mathématiques il retourne. Vous verrez que c'est pas très compliqué, mais en même temps c'est vrai qu'on peut parler de mathématiques, même pour être plus précis, on pourrait parler de mathématiques naturelles, c'est-à-dire ces mathématiques qui ne sont pas celles qu'on trouve dans les traités très savants, mais qui sont finalement cachés dans pas mal d'activités qu'on fait, même des activités qu'on fait tous les jours, et en particulier quand on fait de la musique. Alors, pour expliquer ça, je vais vous montrer un petit extrait de vidéo qu'on avait fait en 2004, donc c'était l'une des premières sessions de travail qu'on avait faites avec Bernard, et c'est une situation assez simple, alors je l'ai déjà montré, s'il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà vu, c'est une expérience très simple où Bernard dialoguait avec l'ordinateur, et donc il jouait quelque chose, et puis l'ordinateur répondait, et donc c'est un dialogue. Alors vous verrez après, Gérard fera des choses beaucoup plus complexes. Ici, la situation est assez simple, mais du coup, ça permet de rendre les choses peut-être un peu plus claires. Alors je vous montre ce petit extrait.
Thank you.
s'arrête là et quand il y a une espèce de boucle qui se met en place. Donc vous avez vu, Bernard fait une proposition et puis l'ordinateur capte ce qui a été joué par Bernard et l'intègre dans un processus de génération de musique qui à la fois imite ce qui a été joué et s'en éloigne. Donc on est dans une dialectique de l'imitation et de la transformation. Alors je vais vous montrer le même dialogue sous une autre forme. Voilà, et c'est dans une petite animation multimédia qu'on avait réalisée pour présenter ce projet, donc qui est destiné d'ailleurs à être sur Internet, qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui le sera bientôt, et donc qui explique un petit peu les principes qui sont mis en œuvre dans ce projet. Voilà, alors ça c'est le dialogue qu'on vient d'entendre et vous voyez, on voit l'image de Bernard et puis on voit ici, en bas de l'écran, une représentation de ce qui a été joué. Donc c'est une présentation plus analytique par rapport à la vidéo. Et en fait c'est les notes qui sont jouées, donc on a l'axe du temps horizontalement et puis les touches du clavier verticalement et puis les notes c'est des petits segments. Et donc ça permet de voir ce qui s'est passé dans ce dialogue. Alors, à gauche, on a la partie jouée par Bernard qui est en bleu, et puis à droite, la réponse de l'ordinateur en rouge, et puis on a plusieurs pages, parce qu'il y avait plusieurs échanges, questions-réponses. Et alors, c'est très intéressant de suivre dans le détail ce qui s'est passé, et d'ailleurs on voyait beaucoup sur le visage de Bernard, qui nous disait pas mal de choses sur la manière dont il suivait ce dialogue, mais on le voit encore mieux quand on a la représentation. On voit qu'ici, il avait joué une petite séquence très rythmique, très staccato, hein, avec des notes courtes, on voit que c'est des segments assez courts, et on voit que la réponse de l'ordinateur n'a pas capté cet aspect très rythmique, puisque les notes sont plus longues, et c'est à ce moment-là que Bernard a fait comme ça, il n'était pas satisfait de la réponse de l'ordinateur. Et à l'étape suivante, on voit que l'ordinateur se met à radoter un peu sur les mêmes notes, ça tourne un peu en rond, et là Bernard a ouvert le jeu en quelque sorte avec un arpège dans l'aigu, on voit ici à gauche en bleu, très rapide, et on voit que ça a été immédiatement capté par l'ordinateur qui l'a mis dans une espèce de boucle, c'est pas vraiment une boucle d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est pas tout à fait régulier, mais ça a un peu tendance à tournicoter, et du coup ça commence à créer une espèce de rythme, et du coup à l'étape suivante, Bernard a souligné ce rythme avec une basse selon un rythme un peu pointé, voilà, qui d'ailleurs elle-même a été récupérée par l'ordinateur. On voit ici en rouge qu'on reprend la basse qui est ici en bleu. Donc on voit sur cette représentation graphique, ça permet de suivre exactement ce qui s'est passé, et on voit ce phénomène assez intéressant finalement à explorer, où l'ordinateur joue un peu un rôle de double, et il y a une espèce de dialogue avec un mélange de méfiance et d'intérêt entre Bernard et son double, et une espèce de jeu de course-poursuite. Et donc c'est ça que vous verrez après, beaucoup plus développé tout à l'heure, dans la performance. Alors moi, mon propos, c'est simplement de vous expliquer en quelques mots de quoi il retourne, et quelles sont ces mathématiques naturelles qui sont cachées derrière, qui sont d'ailleurs assez simples, c'est un peu peut-être exagéré de parler de mathématiques dans ce cas-là, mais enfin, ça peut quand même donner lieu à des développements mathématiques éventuellement même très élaborés.
C'est pas moi, c'est la mémoire de tout un peu. Et ça crée une distance qui est vachement
Alors, le principe du logiciel, c'est de fonctionner avec des probabilités de transition. Alors, qu'est-ce que c'est que des probabilités de transition? Ça veut dire que quand vous jouez une séquence de musique, bah, vous enchaînez un certain nombre de sons, un certain nombre d'événements sonores, de notes, on peut les appeler comme on veut, qui sont disposés dans le temps, qui sont disposés temporellement. Et après avoir joué un événement, bah, vous en jouez un autre. Et puis, si l'événement que vous avez joué réapparaît, il peut éventuellement être suivi d'autre chose. Il n'est pas forcément suivi de la même chose quand il est apparu la première fois. Et donc, du coup, chaque événement, comme ça, a un certain nombre de transitions possibles, qui sont celles qui ont été effectivement jouées par le musicien. Et on peut faire la liste de ces transitions. dire, voilà, si je joue, bon, alors prenons l'exemple des notes du piano, si on joue la note Do, et bien dans un cas, elle peut être suivie de la note Ré, puis un autre cas, elle peut être suivie de la note Sol, etc. Et donc, et voilà, et on a un certain nombre de transitions, tout simplement, entre les événements sonores. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les probabilités de transition, et de regarder ces probabilités par rapport à un certain contexte. Alors, je vais prendre une séquence de lettres, parce qu'en réalité, même si l'ordinateur donne l'impression de faire la musique, de la musique, en réalité, il n'entend strictement rien, l'ordinateur. Hein, et donc, pour lui, il manipule des sons absolument comme si c'était n'importe quoi. Ça pourrait. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ici des lettres, parce que finalement, ça ne fait aucune différence pour la machine. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que l'ordinateur fait de la musique alors qu'il n'a strictement aucune oreille, et donc il se contente de mettre en œuvre ces modèles qu'on lui a injectés. Et donc, si on prend la séquence qui est là, et qu'on s'intéresse à un petit segment, alors on prend le segment Abra, c'est-à-dire les quatre premières lettres que vous voyez là, ben vous voyez qu'elles sont suivies de la lettre C, ici, mais Abra réapparaît un peu plus loin, et ça ne sera pas suivi de la lettre C. Alors, quelles sont exactement les transitions possibles? Ben, il y a trois occurrences de Abra, une fois suivie de la lettre C, une fois de la lettre B, une fois de la lettre D. Donc finalement, on peut dire que dans ce cas-là, on a une chance sur trois d'être suivi du C, une chance sur trois d'être suivi du B, une chance sur trois d'être suivi du D. Donc ça fait une probabilité de 1 tiers, si vous voulez. Voilà, c'est tout simplement ça, ce principe des probabilités de transition. Et alors, il y a du coup, quand on développe le modèle, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Là, j'ai pris un contexte de quatre lettres, Abra, mais qu'est-ce qui se passe si j'augmente ou si je diminue le contexte? Alors, augmentons-le, on va prendre Abra à la place de Abra, c'est-à-dire je rajoute un R devant. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'une seule transition possible, c'est le D. C'est-à-dire que quand Rabra apparaît dans la séquence, elle est suivie du D. Donc, vous voyez, on a diminué le nombre de possibilités. Hein, on a finalement restreint notre éventail de choix, simplement parce qu'on a pris un contexte plus long. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Il se passe que si vous prenez des contextes très courts, vous avez beaucoup de choix possibles, mais vous allez produire quelque chose qui va s'éloigner de la séquence qui avait été jouée initialement. Et si vous augmentez le contexte, vous avez moins de choix possibles, mais du coup, vous allez avoir tendance à répéter la séquence qui a été donnée au départ. En fait, c'est tout simplement ça le principe de cet algorithme. Alors, voilà ce que ça donne. On va générer une séquence en appliquant ce principe, et vous allez voir les lettres s'afficher. Vous allez voir que le contexte augmente, et quand le contexte augmente, on est en train de répéter tout simplement un morceau de la séquence de départ. Puis dès qu'il y a un moment où le contexte se restreint, là, hop, on essaye une autre possibilité, et puis de nouveau, le contexte va augmenter, et on va de nouveau recopier une partie de la séquence initiale. Voilà ce que ça donne. Oui. Donc là, on voit bien sur cet exemple, alors vous pouvez vérifier qu'au départ, on a suivi une portion de la séquence, puis à un moment, il y a eu une bifurcation, et ensuite, on s'est de nouveau rapproché de la séquence initiale. Et donc, en jouant sur ce contexte, on joue sur une espèce de curseur qui donne la fidélité par rapport à ce qui a été joué au départ. Et puis, si on baisse le curseur, on va explorer des choses nouvelles qui, comme le disait Gérard hier, sont en quelque sorte contenues dans la séquence initiale. Tout est contenu dans la séquence initiale, parce que ces probabilités, elles sont toutes calculées à partir de ce qui a été joué. Donc, ce sont des potentialités de ce qui a été joué qui sont explorées soit de façon très large quand on restreint le contexte, soit de façon beaucoup plus resserrée si on l'augmente, mais à ce moment-là, on a un peu tendance à répéter ce qui a été joué. Alors, puisqu'on est parti sur des lettres, là, au lieu de musique, et ben on va poursuivre dans cette voie-là. En réalité, le premier mathématicien qui s'est intéressé à ces choses-là, c'était un Russe, Markov, qui a donné son nom à ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Et c'est assez amusant de savoir que Markov s'était intéressé à ça à partir, en fait, de textes littéraires. Il s'intéressait à des romans, et il regardait les probabilités de transition entre les lettres à l'intérieur d'un roman, et il voulait voir si, avec ce modèle-là, on pouvait capter quelque chose du style d'un écrivain. Donc, vous voyez, c'est pour montrer que les mathématiciens s'intéressent parfois à des choses plus insolites que ce qu'on pourrait imaginer a priori. Alors, du coup, ben, on s'est amusé à faire tourner le modèle sur des lettres. Alors, d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure que le modèle tourne sur plein de choses. Il peut même tourner sur de la voix parlée aujourd'hui. Alors là, à l'époque, c'était, il y a quelques années, c'était encore un modèle un peu rudimentaire. On avait pris un texte, c'est un texte de Bernard, et Bernard l'avait lu, et on l'avait transformé avec ce processus. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est un texte qu'on a tout simplement pris sur le site internet du ZEST, où Bernard raconte son parcours, comment il est venu à UZEST.
Alors UZEST m'a rappelé à mes affaires, là j'ai tout recommencé, puisqu'alors j'étais un musicien distingué, mais pas vraiment entier. Toutes les étapes de la révolution jazzistique, tous les bouleversements de la musique contemporaine à UZEST, j'ai décidé de les refaire à ma façon, de les réinventer, de les retraverser. Je me suis dit que je ne pouvais pas être l'apparachnik d'une révolution que je n'avais pas commise, donc j'ai entrepris ma propre révolution, même si elle n'était que communale.
Voilà, alors voilà ce que ça donne quand on commence à mouliner le texte dans le logiciel.
J'avais connu une époque au milieu des directions enthousiasmantes, Luciano Berio rappliquait une espèce de survie. Ils éprouvaient un sentiment fort d'altérité et c'est là que se fabriquait une espèce de survie. Ils éprouvaient un sentiment fort d'altérité et c'est là que se fabriquait une espèce de survie. Ils éprouvaient une vraie force de survie. Ils éprouvaient une vraie force de mauvaise humeur, de fatigue permanente. Les mecs jouaient tout et n'importe quoi du matin au soir, des nuits entières, l'overdose. J'avais pas communal.
Voilà, alors, vous voyez, là, c'est encore des phrases en français, mais on a l'impression que le type est un peu tendance à radoter. Effectivement, il y a une phrase qui revient, ils éprouvaient une vraie force de survie. Et en fait, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé dans l'exemple musical tout à l'heure, où les séquences avaient tendance à être mises en boucle. C'est exactement le même mécanisme. Hein, ça fait partie du modèle qu'on a tendance à revenir comme ça sur des segments. Vous pouvez noter que même si c'est des phrases en français, il y a déjà un certain nombre de choses qu'il est plus capable de gérer, par exemple la parenthèse ouvrante. Vous voyez qu'il y a une parenthèse ouvrante et qui ne se ferme nulle part. Donc vous voyez, il donne l'impression de maîtriser la langue française, mais en réalité, c'est un modèle qui est extrêmement simple et qui est tout à fait incapable de tenir compte de tout un tas de choses très complexes dans le maniement de la langue, des choses même finalement aussi basiques que la gestion des parenthèses. En principe, une parenthèse ouvrante est fermée par une parenthèse fermante. Si ça donne encore des phrases à peu près grammaticales, c'est parce que le contexte qu'on avait pris là était supérieur à la moyenne, la longueur moyenne des mots, et du coup ça génère des mots. Mais si on fait diminuer encore le contexte et qu'on passe en dessous d'une espèce de longueur moyenne des mots, alors vous allez voir que ça devient très bizarre.
Jusqu'alors j'étais enthousiasmanteur, il permanent, 10 ans, j'avais colère contre temps de la musique, aujourd'hui elle a malox aux autres, l'histoire a grand du temporaire, contemporaine, il générait la musicienne des sujettisations de définitive caverne, conséquence, enfin, il devient rendu soir, cuve, sont trop pleins de colère, permanent, réceptacle, puis trois ma façon, des sujettisations d'heures. L'écho hier, Luciano Berio rappelait à ma progrès sage codage de la parachnik d'une proposée le mondial istantification RAM.
Voilà, ça commence déjà à devenir laborieux, et puis après.
Les animales tourstir comme si troll comme nous gère un joli parent d'une malice frustration dont nous là. Il y a les grecs comme. Un surdécis, leur sextitre handicapé tant pire d'aise, une desséquée. Un surdusquesse qu'un sans une attrait d'amène de reste. De plus s'y coupe à pire, allons à sage camenteur du mar. Antinésialisage, sage zule, paraciste déteste-toi, source de lumière, insolent grec, l'hérénique, illoi de gelée, l'ouïe, le ouïque, afrorique, derivortaté des démences, oxo, quince, gelée, hérénique, danse, et disse, quésici, septembre, pète, puis trop sage, à ce jour et l'hiver, original, vrai.
Voilà, donc vous voyez, c'est, en fait, c'est ça que fait le logiciel. Bon, et donc, quand on le fait sur la musique, on ne se rend pas compte, mais si on le met sur du texte, ça donne ça. Alors, d'ailleurs, ça, c'était une version ancienne. Bernard avait relu les textes qui avaient été transformés. C'est d'ailleurs pour ça que l'élocution devient un peu plus difficile, parce que forcément, on lui fait lire ça, donc ça demandait un certain effort. Mais maintenant, le logiciel, Gérard, tu m'arrêtes si je me trompe, le logiciel permettrait de le faire directement sur le fichier son de la voix elle-même, et ça donne et ça donnerait une recombinaison directement à partir de la voix initiale, de la voix qui avait été...
Même en temps réel.
Mais en temps réel. Et du coup, quand on le fait, c'est très... Il y a un phénomène très bizarre parce que on s'aperçoit pas tout de suite que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut un petit délai parce qu'on a l'impression d'entendre une langue familière, du français, sauf que il faut un certain temps pour s'apercevoir qu'en réalité, ça n'a pas de sens. C'est très, très bizarre comme expérience. Je ne sais pas si on fera ça tout à l'heure.
Mais, oui, on fera peut-être. Ouais.
Alors, voilà. Donc là, vous savez à peu près tout.
Moi, juste une remarque, ouais. Si tu permets. Il est possible que ce truc-là ne soit pas complètement éloigné d'un phénomène qui existe chez les hommes, pas chez les ordinateurs, qui s'appelle le parler en langue, ou les glossolalies, je crois que ça s'appelle comme ça, les glossolalies. Tu sais, c'est le phénomène qui arrive dans les transmystiques. Ouais. Avant, on disait parler en langue parce qu'on croyait que les gens, tout à coup, maîtrisaient une langue étrangère qu'ils ne connaissaient pas. On disait que les gens parlaient en latin. Alors, c'est des gens qui n'avaient aucune éducation, qui ne savaient pas parler latin. En vérité, ils ne parlaient pas latin. Ils se mettaient à parler quelque chose qui était absolument incompréhensible, mais qui avait la couleur du latin. Parce qu'ils avaient entendu du latin à l'église, par exemple. Et ça existe toujours, le parler en langue. Ça, tu dois savoir ça mieux que moi. Et je crois qu'il y a des...
Dans les phénomènes de possession.
Dans les phénomènes de possession. Et moi, je suis persuadé que le parler en langue, en fait, a cette structure-là. C'est-à-dire que c'est une recombinaison très rapide des mots, en puisant comme ça dans la mémoire auditive tout ce qu'on a entendu, mais qui respecte certaines probabilités de transition qui font que ça a la couleur de la langue. Et donc, on a vraiment l'impression que quelqu'un parle une langue. En vérité, il parle pas une langue, mais il parle quelque chose qui a la couleur et le goût. Oui. D'une langue.
Et le pire de tout, c'est qu'on se dit, tiens, je suis en train d'écouter du français.
Ouais. Mais jusqu'au moment où on voit que les mots n'ont pas de français.
Ça s'appelle le yaourt aussi. Quand on chante un yaourt.
Oui, c'est ça. Oui, exactement.
Voilà, donc c'est ça le mécanisme. Alors, il a été développé, il y a plusieurs manières de le faire, etc. Bon, voilà, mais en tout cas, ce que vous allez entendre tout à l'heure repose essentiellement sur ce principe-là. Alors, ce que je vais montrer maintenant pour terminer, c'est différentes voies qu'on a ouvertes dans ce projet. Ça marche assez bien, c'est ce que vous allez entendre tout à l'heure. Mais ça pose plein de questions, parce que c'est un algorithme qui est un peu difficile à maîtriser, non pas pour l'implémenter dans un ordinateur, parce que ça c'est facile, mais à maîtriser si on veut lui imposer un certain nombre de choses extérieures. Si on lui demande simplement de gérer les potentialités qui sont dans la séquence initiale, il le fait très bien à sa manière à lui. Mais si on veut rajouter des contraintes extérieures, là, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire qu'il est, c'est un algorithme qui ne se laisse pas domestiquer très facilement. Et alors, dans ce projet avec Bernard, ce qui nous intéressait plus particulièrement, c'était la question du jazz, c'est-à-dire, bien sûr, on peut faire de l'improvisation libre. C'est ce que vous avez entendu sur la petite vidéo et c'est ce que vous entendrez tout à l'heure. Mais si on veut essayer de capter certaines qualités particulières du jazz, certaines caractéristiques du jazz, ben on est beaucoup plus maladroit et on bute sur des vraies difficultés qui sont des difficultés théoriques, si je peux dire. Alors pour essayer d'expliquer ça rapidement et montrer quelques voies qu'on a explorées, il y a des choses qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, il y a des voies qui sont ouvertes et qui ne sont pas encore complètement explorées, je vais ramener ça à deux aspects du jazz. Le premier, c'est la syncope. Et le deuxième, c'est la Blue Note. Ces deux aspects qui me paraissent caractériser déjà pas mal de qualités intrinsèques au jazz, et qu'on pourrait résumer en disant que c'est une certaine manière d'être décalé. Hein, la syncope, c'est une certaine manière d'être décalé par rapport à une pulsation, qui est très présente dans un certain style de jazz, et l'art des jazzmen consiste précisément à jouer avec cette syncope et à s'en éloigner, s'en détacher, etc. Et puis la blue note, c'est un peu la même chose cette fois avec le cadre tonal, avec l'harmonie. C'est une manière de distordre les harmonies en rajoutant des notes qui ne sont pas dans la gamme habituelle. Et donc là encore, de se décaler par rapport à un cadre de référence. Et ça, on a un peu du mal à le faire. On n'a pas vraiment de modèle général pour faire ça. Faire en sorte que l'ordinateur soit décalé. Alors vous pouvez me dire, quel est l'intérêt de faire en sorte qu'un ordinateur soit décalé? Un ordinateur, c'est pas fait pour ça a priori. Oui, mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est là qu'on a trouvé à Uzest une oreille intéressée par ce genre de questions qui, a priori, ne devrait intéresser personne. Et donc, on a réfléchi à ces problèmes de comment essayer de confronter notre algorithme d'imitation et de déformation avec des cadres comme une pulsation, comme une référence tonale, ou des choses plus complexes, après comme des formes, par exemple, peut-être que Gérard en parlera un petit peu tout à l'heure. Et alors, il y a des choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Je vais vous montrer quelque chose qui marche assez bien, c'est la pulsation, faire sentir une pulsation dans un cas particulier. Qui permettra de montrer d'ailleurs comment marche la recombinaison sur des séquences musicales. Là, vous avez deux séquences musicales, une en bas qui a été calculée par l'ordinateur, une en haut qui avait été jouée par Bernard. Et donc, on voit assez bien le principe. C'est, ce principe, vous l'avez vu sur Abracadabra ou sur le texte. On puise dans le segment, dans la séquence initiale, et on recombine les éléments. Mais ce qui apparaît assez bien ici, c'est que la recombinaison se fait avec des éléments communs. Vous voyez, on a un peu tendance à tuiler les éléments, et ça donne une certaine fluidité. Donc ça, c'est intéressant sur le plan musical. Ça garantit une certaine fluidité musicale. Alors là, vous voyez, quand la séquence est affichée, on voit très bien... les rectangles sont appareillés par coupe, donc là, ceux du bas avec ceux du haut. On voit très bien que ceux du haut sont prélevés dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique. Donc ça ne correspond pas à l'ordre dans lequel la séquence avait été jouée. Je refais l'affichage. Vous voyez, on voit bien, la séquence du bas consiste à prélever des segments en haut et à les recombiner. Voilà. Alors ça, c'est une ligne de base, et ça marchait assez bien sur cette ligne de base, parce que dans ce qu'on appelle les walking bass en jazz, on a tendance à jouer avec une certaine régularité, pour faire se sentir précisément cette pulsation. Et donc, quand on fait les recombinaisons, on conserve ce sentiment de régularité, et donc on conserve cette pulsation qui émerge de ce qui est joué. Et alors, du coup, ça marchait assez bien. En tout cas, ça marchait suffisamment bien pour que, quand cette séquence avait été calculée, il faut dire en deux mots les conditions, Gérard, en fait, installait le logiciel, faisait des tests, et puis il avait lancé un calcul, c'était simplement pour régler le son, ou c'était pour des raisons purement pratiques. Et puis Bernard était au synthétiseur, et il a entendu cette basse, et elle lui a paru suffisamment stimulante, disons, pour qu'il se mette à improviser. Et il a improvisé pendant 20 minutes sur la basse. Et donc je vais vous faire écouter les trois premières minutes, et vous allez voir que là, on arrive à capter quelque chose de cette dynamique rythmique propre au jazz. Thank you. Alors voilà un extrait de cette improvisation complètement spontanée. Alors donc dire rapidement ce que vous avez entendu. Donc la basse en rouge était calculée par l'ordinateur. Le solo qui est au-dessus en bleu avait été improvisé par Bernard. Donc c'est une tranche qu'on a prise les trois premières minutes. Et on a rajouté après une partie de batterie qui a été jouée par Bernard en re-recording. Et donc ça fait une espèce de trio virtuel de Bernard avec lui-même et avec une sorte d'ersatz informatique donc qui faisait la partie de basse. Alors je vais maintenant parler un peu de l'autre aspect, donc l'aspect harmonique, qui est aussi l'une des caractéristiques du jazz. Et là aussi on a exploré certaines pistes, c'est encore des balbutiements, mais on s'intéresse à comment apprendre à l'ordinateur à gérer ce genre d'aspect, sachant que l'ordinateur manipule bien sûr des accords, ne serait-ce que dans le principe de recombinaison que vous avez entendu, mais pas en référence à un cadre harmonique. Et donc pour le moment il est complètement libre et on n'arrive pas vraiment à l'intégrer dans ce genre de contexte harmonique.
Alors là aussi, je fais de la musique contemporaine.
Je vais dire en deux mots, là du coup, c'est des modèles qui sont différents du modèle probabiliste dont on a parlé précédemment. Donc là, il y a un autre type d'idée qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des règles de réécriture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une règle de réécriture? Là encore, je vais vous montrer ça à partir d'un exemple textuel. Ça correspond à ce qu'on appelle un calembour. Et un calembour, c'est quoi? C'est déformer une séquence donnée pour produire un effet en général comique. Et là, il se trouve que Bernard est un très grand spécialiste du genre, comme vous avez pu le constater tout à l'heure dans son texte. Et donc, voilà un exemple de jeu de mots utilisé par Bernard à partir de musique contemporaine. Qu'est-ce qui se passe si on applique la règle de réécriture qui est indiquée là, qui consiste, c'est donc une partie gauche qu'on remplace par une partie droite. Et bien, il faut chercher dans la séquence. Où se trouve la partie de gauche et on fait le remplacement. Voilà, et donc ça produit une nouvelle séquence. Voilà, et là on a tout un tas de jeux de mots. De Bernard, alors je ne sais pas si on n'arrive pas à lire, mais musicien. Alors Vive l'Amérique par exemple, Vive l'Amérique, ça c'est le titre d'un spectacle de Bernard. Voilà la règle de réécriture. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on applique la règle? Ceux qui connaissent bien les spectacles de Bernard, vous connaissez la réponse. Voilà, Vive la musique. Et donc, c'est d'ailleurs le titre d'un DVD qui avait été publié. Voilà, il y en a d'autres. Technologie, par exemple. Qu'est-ce que ça donne quand on fait quand on applique la règle de réécriture? Voilà, donc technologie. Voilà, donc voilà une collection de calembours de Bernard donc qui montre ce mécanisme. Alors en fait, c'est ce mécanisme-là qu'on a intégré dans le logiciel pour gérer ces questions harmoniques. Alors là aussi, il y a un modèle, là j'insiste pas là-dessus, mais il y a aussi des mathématiciens qui sont des références par rapport à ce genre de modèle. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est ce modèle-là qui est utilisé pour contrôler les expressions qui sont correctement écrites en langage mathématique, notamment des expressions de calcul. Il y a des expressions qui sont correctes et puis d'autres qui ne le sont pas, et on contrôle ça avec des règles de réécriture. Alors nous, on a appliqué ça dans les grilles de jazz, donc pour faire des déformations harmoniques. Et donc, vous avez ici un exemple de grille de simplement quatre accords, donc c'est extrait d'un morceau de Mingus, et puis on a des règles. Oui, alors c'est le même principe, c'est la partie gauche, on regarde si elle est dans la grille, et si elle l'est, on peut appliquer la règle. Alors il y en a qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, donc appliquons la règle qui peut s'appliquer, et ça produit une nouvelle séquence, et puis on peut appliquer une nouvelle règle. alors on peut revenir en arrière, appliquer une autre règle. Voilà, et on a donc un certain nombre de déformations de la séquence initiale. Alors on peut les jouer, on peut même d'ailleurs les, essayer de les enchaîner. Des variantes harmoniques. Et alors, quand on avait commencé à travailler là-dessus, Bernard avait eu une idée assez insolite, mais c'est justement ça qui est intéressant dans le travail avec Bernard. Il avait dit, mais puisqu'on peut transformer comme ça les séquences d'accords, eh ben, on va le faire à la volée. C'est-à-dire qu'on va le faire pendant qu'on joue, on va transformer des séquences d'accords et on va se mettre à improviser dessus. Et alors, ça faisait une situation un peu inédite, parce que dans le jazz qui fonctionne sur ce qu'on appelle des standards, le principe, c'est de la variation sur la séquence harmonique du thème. Mais donc, cette séquence harmonique, elle est répétée en boucle. Les musiciens l'ont dans la tête, ils la connaissent, ils la jouent en boucle. Et là, ça permettait d'explorer quelque chose qui est finalement assez inusuel en jazz. C'est d'improviser sur une séquence d'accords qui se transforme perpétuellement, donc qui n'est pas stable, qui est en perpétuelle évolution. Alors voilà ce que ça donne.
Les mecs qui jouent la veille, la veille chante.
Bon, alors vous avez la grille qui s'affiche ici à l'écran, donc c'est la grille du morceau de Mingus. Et donc vous allez voir en temps réel, cette grille va se transformer. Il y a des accords qui vont apparaître à la place des accords qui sont initialement prévus. Et Bernard avait imaginé cette situation où on improvise à la volée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va venir, mais on voit ça s'afficher et on improvise dessus. Donc dans ce que vous allez entendre, les accords et la basse sont joués par l'ordinateur. Le solo de Bernard a été donc improvisé à la volée pendant que les accords se calculaient. Vous allez voir qu'il improvise sur des accords qui sont fixés quelques secondes avant qu'il improvise dessus. Quoi. Le délai est assez court. Et alors il a un son flûté et on a rajouté après quand on a mis au propre cet exemple une partie de batterie et une partie de guitare jouée par Fabrice, mais qui lui donc a joué sur des accords qui étaient déjà fixés, mais qu'on avait imprimé sur une feuille de papier. On avait imprimé les différentes séquences d'accords qui avaient été calculées. Voilà, je vous fais écouter pour terminer cet exemple. Thank you. ben j'en ai terminé. Donc c'était des exemples déjà anciens. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Et donc je vais laisser la parole à mon collègue Gérard qui va vous présenter des choses plus récentes qui montrent un peu les différentes évolutions du logiciel auquel on est arrivé.